Vous aimez la littérature?
Vous essayez de faire de la littérature. Vous pourrez peut-être m'aider à trouver une solution.
Ouais, c'est de cramberger un peu pour une fois.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
Mon livre parle de masque comme métaphore. Une métaphore n'a pas un...
Quel essai?
Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un texte écrit par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Simone Veil. Mais ce n'est pas la Simone Veil que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est la Simone Veil, philosophe, qui est née en 1909 et morte en 1943. Cette femme, philosophe, écrivain français, qui a fait Normale Sup, jeune fille à l'époque, agrégée de philosophie, elle travaille en usine parce qu'elle veut comprendre quelle est la condition des ouvriers. Elle quitte l'enseignement pour ça. Elle va travailler chez Renault à la chaîne. Elle travaille donc en usine. Elle prend part à la guerre d'Espagne aux côtés des Républicains. Elle s'engage dans les brigades internationales, puis très rapidement, sans doute pour des raisons idéologiques, se rapproche de Durruti, le leader anarchiste espagnol. Et comme éclate la Seconde Guerre mondiale, elle part aux États-Unis, puis elle revient à Londres, où elle vient rejoindre la France libre. Et assez rapidement, elle se distingue, disons, de la pensée politique de Gaulle, qu'elle quitte. Elle quitte son cabinet et elle meurt à l'âge de 34 ans, parce qu'elle est très, très malade. Et donc, elle a donné des apports à la philosophie, à la critique politique, et la spiritualité, souvent d'inspiration chrétienne, et elle peut être considérée comme l'un des penseurs majeurs de notre temps. Le philosophe Alain, pensait qu'effectivement, elle était quelqu'un qui avait eu une pensée extrêmement critique. Et notamment, on peut rapprocher certains de ses textes de la pensée subversive de quelqu'un comme Hannah Arendt, quelques années plus tard. Je vais vous lire un petit passage de ce texte qui exprime complètement son combat pour une espèce de justice sociale. Son texte, qui est lié à son expérience en usine, s'appelle « Conditions premières d'un travail non servile ». Je vous lis cet extrait. « Dans notre société, la différence d'instruction produit, plus que la différence de richesse, l'illusion de l'inégalité sociale. » Marx, qui est presque toujours très fort quand il décrit simplement le mal, a légitimement flétri comme une dégradation la séparation du travail manuel et du travail intellectuel. Mais il ne savait pas qu'en tout domaine, les contraires ont leur unité dans un plan transcendant par rapport à l'un et à l'autre. Le point d'unité du travail intellectuel et du travail manuel, c'est la contemplation, qui n'est pas un travail. Dans aucune société, celui qui manie une machine ne peut exercer la même espèce d'attention que celui qui résout un problème. Mais l'un et l'autre peuvent, également s'ils le désirent ou s'ils ont une méthode, en exerçant chacun l'espèce d'attention qui constitue son lot propre dans la société, favoriser l'apparition et le développement d'une autre attention située au-dessus de toute obligation sociale et qui constitue un lien direct avec Dieu. Si les étudiants, les jeunes paysans, les jeunes ouvriers se représentaient d'une manière tout à fait précise, aussi précise que les rouages d'un mécanisme clairement compris, les différentes fonctions sociales comme constituant des préparations également efficaces pour l'apparition dans l'âme d'une même faculté transcendante, qui a seule une valeur, l'égalité deviendrait une chose concrète. Elle serait alors à la fois un principe de justice et d'ordre. La représentation tout à fait précise de la destination surnaturelle de chaque fonction sociale fournit seule une norme à la volonté de réforme. Elle permet seule de définir la justice. Autrement, il est inévitable qu'on se trompe, soit en regardant comme des injustices des souffrances inscrites dans la nature des choses, soit en attribuant à la condition humaine des souffrances qui sont des effets de nos crimes et tombent sur ceux qui ne les méritent pas. Une certaine subordination et une certaine uniformité sont des souffrances inscrites dans l'essence même du travail et inséparables de la vocation surnaturelle qui y correspond. Elles ne dégradent pas. Tout ce qui s'y ajoute est injuste et dégrade. Tout ce qui n'empêche pas de retrouver la source perdue d'une telle poésie, il faut encore que les circonstances mêmes du travail lui permettent d'exister. Si elles sont mauvaises, elles la tuent. Tout ce qui est indissolublement lié au désir ou à la crainte d'un changement, à l'orientation de la pensée vers l'avenir, serait à exclure d'une existence essentiellement uniforme et qui doit être acceptée comme telle. En premier lieu, la souffrance physique, hors celle qui est rendue manifestement inévitable par les nécessités du travail. Car il est impossible de souffrir sans aspirer au soulagement. Les privations seraient mieux à leur place dans toute autre condition sociale que dans celle-là. La nourriture, le logement, le repos et le loisir doivent être tels qu'une journée de travail prise en elle-même soit normalement vide de souffrance physique. D'autre part, le superflu non plus n'est pas à sa place dans cette vie, car le désir du superflu est par lui-même illimité et implique celui d'un changement de condition. Toute la publicité, toute la propagande, si variée dans ses formes, qui cherche à exciter le désir du superflu dans les campagnes et parmi les ouvriers, doit être regardée comme un crime. Un individu peut toujours sortir de la condition ouvrière ou paysanne, soit par manque radical d'aptitudes professionnelles, soit par une possession d'aptitudes différentes. Mais pour ceux qui y sont, il ne devrait y avoir de changement possible que dans un bien-être étroitement borné à un bien-être large. Il ne devrait y avoir aucune occasion pour eux de craindre tomber à moins ou d'espérer parvenir à plus. La sécurité devrait être plus grande dans cette condition sociale que dans toute autre. Il ne faut donc pas que les hasards de l'offre et de la demande en soient maîtres.
Le premier essai !
Vous aimez la littérature ?
Vous auriez essayé de faire de la littérature ? Vous pourrez peut-être m'aider à trouver une solution ?
Ouais, essayez de cramberger un peu pour une fois.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
Mon livre parle de masque comme métaphore. Une métaphore n'a pas un...
Quel essai ?